qui êtes nombreux à nous suivre d'Abidjan, Kinshasa ou N'Djamena et Cavado avec vous du studio 9 de la Voix de l'Amérique où il est 18h05 en temps universel et 13h05 ici à Washington. À votre avis, se penche aujourd'hui sur le dernier rapport de Transparency International qui vient de publier son rapport 2018 avec un bilan sombre pour la corruption en Afrique subsaharienne. L'organisation de lutte contre la corruption note que les pays qui s'en sortent le mieux en Afrique sont ceux qui ont des institutions stables et ont des gouvernements qui affichent leur souhait d'éradiquer la corruption, notamment l'Angola qui a gagné 4 points depuis 2015. Alors estimez-vous qu'il y a du progrès dans votre pays et quelle est votre part de responsabilité personnelle dans cette lutte contre la corruption? Nous allons discuter ensemble pendant près de 30 minutes et pour participer, un seul numéro, le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également laisser votre numéro de téléphone en commentaire de nos promotions sur la page Facebook de VOA Afrique. Et c'est ce qu'a fait notre premier auditeur. Comme j'ai un léger souci de son, nous allons l'écouter. Bonjour, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Allô?
Madame. Oui, allô?
Alors, allô? Pour l'instant, je n'entends pas l'auditeur, mais j'espère que je vais l'entendre d'ici quelques instants. Bonjour, qui est avec nous à l'antenne?
Oui, bonsoir, c'est Thierry. Allô?
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis concernant le sujet d'aujourd'hui?
Est-ce que, madame, vous m'entendez bien? Allô?
Oui, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis concernant le sujet du jour? Je ne vous entendais pas, j'avais un léger problème au micro, mais maintenant je vous entends très bien. Bonsoir.
Ok, d'accord. Oui, bonsoir. Madame, à mon avis, donc, je suis d'abord d'accord avec cette organisation parce que c'est vraiment une réalité ici en Afrique et surtout, je vais insister sur le Burundi. Il y a un moment, les autorités burundaises avaient affiché une volonté tout à fait claire. Ils voulaient vraiment lutter contre la corruption. Mais aujourd'hui, je dirais que c'était une politique, que c'était une façon de se réélire parce qu'à présent, je dirais qu'il n'y a rien qui n'est fait juste pour éradiquer la corruption. Donc, vous-même, vous nous avez posé la question de savoir est-ce que nous aussi, nous essayons de contribuer à la lutte contre ce fléau. Pour moi, c'est un fléau qui, normalement, devrait concerner tout le monde. Mais vous savez, le problème ici en Afrique, moi, je suis simple citoyen et il est vraiment difficile de pouvoir dénoncer quelqu'un qui a un pouvoir supérieur qui peut peut-être me mettre en prison même. Donc je dirais que tout d'abord ça devrait être une responsabilité, une volonté des acteurs politiques, surtout ceux qui sont au pouvoir. Et l'AMNISTY, c'était une organisation qui a fait ce rapport, vraiment ils ont raison de dire que dans un pays où il y a des institutions stables, où il y a des dirigeants stables, c'est là où vraiment la corruption peut disparaître. Vous voyez le pays, le Rwanda, au Rwanda, nous remarquons très bien que la corruption aujourd'hui essaie de disparaître en quelque sorte parce que les autorités ont affiché une volonté d'éradiquer la corruption. Donc ça devrait tout d'abord être une affaire des autorités. Avant que ce soit l'affaire des simples citoyens. Donc, je dirais qu'il faut qu'il y ait une politique. Et si cette politique est là, vous comprenez très bien que moi, comme simple citoyen, je ne vais avoir pas le problème de dénoncer certains corrupteurs. Vous comprenez bien.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis. Je rappelle que c'était donc Thierry, notre premier auditeur. Et nous en avons un second qui nous amène au Mali. Il s'agit de Mamadou Traoré. Bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Alors vous, quel est votre avis concernant le sujet du jour? Comment faire à titre personnel pour qu'il y ait moins de corruption et que son pays également puisse se hisser dans une meilleure place dans ce futur rapport de cette ONG?
Bien, écoutez madame, je suis d'abord désemparé que le fléau gagne toute l'Afrique, mais c'est ce que j'ai dit sur la page, il y a un instant particulier sur l'Afrique francophone, surtout le Mali, qui est mon pays. En réalité, la corruption est vraiment très, 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 très élevée au Mali ici, et on le constate des hauts décideurs jusqu'en bas, jusqu'à la classe basse, donc tout le monde est presque corrompu. Et à mon humble avis, pour éradiquer le phénomène, il faut d'abord de la bonne éducation, puisque c'est l'éducation qui est la base. Donc, cette éducation, elle n'y est pas. Et les décideurs qui doivent être des exemplaires, ce sont eux d'ailleurs qui sont les plus corrompus. Donc, ce sont eux qui sont les responsables, ce sont eux qui, vraiment, qui sont les plus gangrenés de cette situation. Donc, à mon humble avis, il faut vraiment une éducation, il faut que l'éducation revienne. Il s'agit de l'éducation familiale et aussi dans les écoles. Permettez-moi de dire que l'Afrique, vraiment, est le continent le plus mêlé de cette affaire de corruption.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre opinion. C'est une excellente soirée, Mahamadou. On va au Cameroun à présent avec notre prochaine auditrice. Il s'agit de Marie-Jeanne Abega. Bonsoir.
Bonsoir, la VOA.
Alors, vous êtes au Cameroun. Dans quelle ville précisément?
S'agissant du sujet de ce soir, je voudrais dire qu'on devrait commencer à lutter contre la corruption en mettant le citoyen à l'aise.
C'est-à-dire?
Si les citoyens sont francs, ils ne pourront pas échapper au phénomène de la corruption. Ils voudront arrondir les bouts en inventant d'autres activités qui sont contre l'éthique. Et la raison pour laquelle les gouvernements mettent des institutions en place pour lutter contre la corruption et ces institutions sont inefficaces, c'est parce que le niveau de vie des citoyens n'est pas à la hauteur du coût réel de la vie dans nos pays. Je parle particulièrement de notre cas, si je m'en tiens au Cameroun, parce que les salaires que les Camerounais ont ne peuvent pas leur permettre de joindre les bouts. Donc, ils ont inventé d'autres mécanismes de corruption et ça fait que, quelle que soit la répression que le gouvernement pourrait utiliser pour empêcher que la corruption ne s'étende sur le territoire, les gens vont toujours continuer à inventer des mécanismes pour voler. Pendant que le gouvernement met en place des structures, eux aussi, ils inventent d'autres méthodes plus efficaces pour contourner ce que le gouvernement a fait. Donc, pour lutter contre la corruption, moi, je pense qu'il faut d'abord améliorer les conditions de vie des citoyens. Ensuite, enseigner, intensifier l'enseignement de la morale. De la morale, afin que les gens aient peur de poser certains actes. Comme ça, donc, on aurait une société qui aura semé la peur, la panique dans le cœur de ceux qui voudront voler, ceux qui voudront faire de la corruption. Ça ne sert à rien de commencer à emprisonner les gens, alors qu'on n'a pas tiré le mal à partir de la racine.
Merci beaucoup Marie-Jeanne Abega. On reste au Cameroun avec un auditeur guinéen qui vit à Douala. Il s'agit de Tiziane Botekeba. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame. Bonsoir Marie-Jeanne Abega. C'est à tous les auditeurs de titre qui nous écoutent du côté de Yaoundé.
Alors nous vous écoutons. Quel est votre avis pour permettre qu'il y ait moins de corruption?
Oui, j'aimerais en tout cas répondre à ce que vient de dire Marie-Jeanne Abega. Moi, je pense qu'en tout cas, la corruption, c'est notre quotidien parce que les institutions, en tout cas, africaines, ne sont pas quand même fortes. Il faut dire qu'il y a là des zones fortes. C'est pourquoi la corruption, il faut le dire, existe et existera encore. Parce que pour lutter contre la corruption, il faut quand même les institutions fortes. Donc, s'il y a quand même des institutions fortes, il y aura la justice qui réprimera en tout cas les corrupteurs et les corrompus. Parce que forcément, s'il y a un corrupteur à côté, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le corrompu. Donc, il y a le corrupteur et le corrompu. Donc, voilà, mais voilà, il n'y a pas des institutions fortes. C'est pourquoi, en tout cas, tout le monde est corrompu, hein, de A à Z, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Vous allez voir un ministre ici. Par exemple, quand lui confie un chantier, donc au lieu de travailler normalement, il vient sur le terrain. Donc, en tout cas, voilà, par exemple, si on lui donne 100 000, il bouffe 50 000, il travaille, en tout cas, c'est 50 000 sous les yeux de tout le monde. Donc, voilà, et ça passe, parce qu'il n'y a pas d'institution forte, parce que, voilà, il est ami avec le pouvoir. Donc, en tant que voilà, ces personnes sont amies avec le pouvoir, donc ils corrompent, tout le monde voit et ça passe. Et une fois que ces personnes, en tout cas, deviennent, en tout cas, ennemies avec le pouvoir, c'est là que, voilà, que ces personnes seront traitées et après, nous, les citoyens, on va entendre que tel ministre, en tout cas, voler des milliards, et on ne comprend pas comment, en tout cas, ces milliards, quand même, se sont volés. Moi, je pense qu'il faut quand même des institutions fortes. Parce que s'il y a des institutions fortes, en tout cas, il y aura la justice. Et c'est la solution de ça, c'est la justice. C'est la justice,
merci.
En tout cas, qui pourra quand même mettre terme à la corruption.
Alors, des institutions fortes, c'est ce qu'on retient, Tidiane Botekeba. Que dit ce rapport de Transparency International ? Dans le top 5 des pays les plus corrompus sont classés deux pays africains, à savoir la Somalie, qui prend la dernière place du classement, talonné par l'Afrique du Sud qui est au 178e rang. Et puis malgré leur mauvais score, ces deux pays ont gagné néanmoins un point selon l'indice IPC du rapport paru tout dernièrement. Et puis selon l'ONG, il y a également des mauvais bilans dans certains pays, mais qui montrent aussi que d'autres pays prennent des meilleures places, à savoir la Côte d'Ivoire qui a gagné 3 points et le Sénégal aussi qui est en constante progression. Alors qu'en pense notre prochain auditeur, il s'agit de Youssouf Ouadréougo qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe de VOA Afrique, aux auditeurs, auditrices.
Alors vous, quel est votre avis concernant le sujet du jour ?
Écoutez, moi je dirais qu'il est tout à fait louable que l'on fasse de cette lutte un cheval de bataille républicain. Malheureusement, la malfaisance au sommet force l'intellectualité africaine, comme je l'ai dit, au triste constat que cette lutte trompe-l'œil est plus devenue une arme politique des dirigeants africains pour écarter des adversaires politiques loin de toute volonté manifeste d'éradication. Et la première victime de ce désordre aléatoire n'est autre que le faible, c'est-à-dire le pauvre citoyen lambda. Alors, vous allez dans n'importe quelle administration pour un document en Afrique subsaharienne. Soit vous vous pliez à la règle de corrompre votre interlocuteur qui dans beaucoup de cas ne manquera de vous le dire d'une manière ou l'autre pour être satisfait au plus vite, ou alors vous patientez jusqu'à ce qu'il se décide à satisfaire votre demande avec le temps que cela pourra vous prendre. C'est la règle ici au vu et au su de tout le monde dans l'impunité totale. N'en parlons même pas de la sous-traitance des marchés publics ou encore le phénomène de la généralité déroutante du racket dont tous les usagers des transports en commun sont victimes à toutes les frontières de la sous-région. Alors, la sorcellerie, comme on le dit dans le jargon africain, c'est lorsqu'on prétend donner d'exemple sans un exemple de l'exemple qu'on veut donner. Cette lutte, on le sait tous, elle ne tiendra que si l'impulsion est donnée au sommet à partir de la présidence de la République, dans la transparence naturelle des règles qu'on s'établit en la matière et dans le respect de l'esprit de la séparation des pouvoirs. Parce que jamais le harcèlement moral, physique ou matériel dans aucune démocratie sur terre, sur l'indépendance des institutions ou encore la pression judiciaire sur ceux qui les incarnent ne saura jamais traduire, n'est-ce pas, une quelconque lutte qui se veut responsable au-delà d'avouer tout simplement l'autocratie ou encore la dictature.
Merci beaucoup Haruna d'avoir partagé avec nous votre opinion. Alors nous parlons ce soir, pour ceux qui prennent le train en route, de la corruption suite à un rapport de Transparency International qui est sorti, et vous pouvez toujours participer en nous appelant au 001 202 205 26 33. Et dans les pays africains les mieux classés, les Seychelles occupent le haut du podium en se classant 28e pays sur 180, puis vient le Botswana qui a perdu sa place de champion continental, puis le Cap-Vert qui reste stable à la 45e place, le Rwanda et la Namibie sont respectivement à la 48e et 52e place, le Sénégal cette année a perdu un rang en prenant la 67e place au détriment de l'île Maurice. Alors qu'en pense notre prochain auditeur ? Il s'agit d'Aruna Baldé qui est au Sénégal. Bonsoir.
Oui, bonsoir bonsoir à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Voilà, personnellement, ce classement ne me surprend pas vu la politique de nos gouvernants actuels. Voilà, quand je prends l'exemple de mon pays, le Sénégal, alors je vais remonter un peu dans l'histoire. En 2012, lorsque le président Macky Sall prétendait le pouvoir, bon, sa politique était de lutter contre la corruption, mais actuellement on a vu que la politique de règlement de compte a pris les dessus de cette lutte contre la corruption. Parce que depuis lors, on a vu que deux personnalités qui ont été épinglées par cette corruption. Alors, il y a des institutions qui ont été mises en place pour lutter fortement contre cette pratique malsaine, mais on a vu pratiquement que ça n'avance pas trop. Et cela vraiment, bon,
alors vous dites que ça n'avance, vous dites que ça n'avance pas trop. Et qu'est-ce que chaque citoyen peut faire aussi à son niveau pour que les choses puissent également avancer selon vous?
Alors moi, je prends, il faut qu'il y ait une justice impartiale. Mais si la justice elle est instrumentalisée, si la politique est impliquée dans la justice, de quoi qu'il y aura des failles toujours dans la lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait une justice impartiale, des institutions solides qui seront capables de répondre à cette lutte.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre opinion sur notre page Facebook. Énormément de commentaires. Certains nous viennent de la République démocratique du Congo. C'est le cas d'Eddie Loma. Chez moi, en RDC, si tu ne sais pas conjuguer le verbe corrompre, on te met dehors de ton service, car même un simple budget de l'État est également corrompu et pour être accepté au Parlement. Joël Sanga, en RDC, la corruption est plus que la corruption. Voyons, les ministres y construisent des immeubles. Voilà. Et on va écouter tout de suite ce que pense notre prochain auditeur qui est également à Kinshasa. Il s'agit de Josué Kat Kikombo. Bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir aussi aux auditeurs de VO Afrique. Et nous sommes confrontés à un extrême envoûtement de corruption en République démocratique du Congo. La corruption est vraiment vivante sur tous les plans en RDC. Nous déplorons l'existence de ce dernier dans le milieu éducatif où les jeunes n'ont pas une prise de conscience, ce qui fait qu'il y a un déficit d'emploi alors que le gouvernement est dans l'obligation peut-être de déduire à tout prix l'état misérable de la population. Ce qui est à la base vraiment de la corruption en République démocratique du Congo, ce qui a une forte présence des chômages, on peut dire. La population est dépourvue de sa richesse alors que c'est ça un pays qui a tant de richesses. Aujourd'hui, nous retrouvons en République démocratique du Congo des jeunes talentueux. Nous trouvons des gens qui ont bien sûr beaucoup d'ambition, qui ont peut-être la possibilité là de changer les choses au pays, alors que quand il y a déjà quand le gouvernement tout d'abord ne met pas les choses au sérieux, vous sentez que partout où vous entrez dans des bureaux, voire même le journaliste, pour aller seulement chercher une information, récolter une information, le journaliste tout d'abord, il a besoin de chercher quelque chose comme transport pour peut-être subvenir aussi à ses besoins. Et tout ça, c'est quelque chose que nous déplorons. Chose grave, avec le président ou avec le gouvernement sortant, on a eu à voir beaucoup. On était face vraiment à beaucoup de tel genre de choses, on peut dire, qui étaient là pour déprimer la population congolaise. Madame, aujourd'hui en RDC, nous avons les matières premières qui sont là. Aujourd'hui en RDC, la population ne profite pas de cela. Les salariés ne sont pas bien payés. Il y a beaucoup de chômage. Mais quand il y a une personne qui veut peut-être chercher un boulot, tu verras que non, là où il ira chercher le boulot, vous allez voir qu'on peut lui demander peut-être de l'argent. Tout d'abord, avant d'être embauché. Nous prenons le cas de l'université. Il y a des universités, des instituts supérieurs aujourd'hui en RDC où les étudiants sont confrontés à beaucoup de problèmes. Pour seulement passer une promotion, c'est tout un problème. Vous allez voir que si le professeur a beaucoup de arriérés, si un étudiant se présente devant ses professeurs, c'est quel genre de professeur? Vous allez voir que le professeur va se rabaisser devant l'étudiant et chercher à savoir si l'étudiant a l'argent ou pas. Et si l'étudiant donne l'argent, vous allez voir que l'étudiant va passer directement des promotions. Madame, c'est un message fort que nous lançons aux autorités congolaises, mais pas seulement congolaises, mais nous lançons un message à la face du monde que chaque gouvernement doit bien sûr faire le tout pour lutter contre la corruption.
faire le tout pour lutter contre la corruption. C'est ce qu'on retient de votre message qui est passé. On va partir au Bénin. Est-ce que notre auditeur Ange Abel Ndaka est avec nous? Bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
On a pu entendre le cri du cœur de l'auditeur juste avant vous. Est-ce que vous partagez son avis au Bénin? Avez-vous également envie de partager avec nous votre expérience et l'envie que la corruption cesse?
Oui, bon, moi, je voulais juste dire ce qui concerne mon pays.
On vous écoute?
Moi, je voulais juste parler de mon pays. Je voulais juste dire qu'actuellement, au pays, c'est un mal qui gangrène beaucoup. Et le président actuel a pris la mesure des choses et il a obtenu du Parlement l'installation d'une cour appelée une cour de répression des crimes économiques et du terrorisme. Et du coup, cela est décrié par la classe, l'autre classe politique qu'on appelle aujourd'hui l'opposition, qui voit que cette répression est dirigée simplement vers cette classe. Or, cette classe a déjà eu à gérer la chose publique, mais ce que nous attendons de cette cour, c'est des choses graves. Et gérer la chose publique doit, comme celui qui est celui à qui on confie la responsabilité de gérer la chose publique, doit penser à l'intérêt général. Mais nous avons vu qu'à travers à travers la répression, nous constatons que des gens ont géré des choses mal, des gens ont détourné les fonds publics. Imaginez que des fonds qui sont destinés à l'eau potable d'une population, des gens l'ont détourné et ils se sont fait plein d'approches et puis la population est restée. Il y a des populations qui sont restées sans eau potable.
Alors, merci pour ce partage. Ça revient au témoignage d'une auditrice avant. Alors, même quand il y a des recours faits par l'État, d'autres personnes rusent pour détourner l'argent. On va rester au Bénin avec un prochain auditeur qui est à Abomey-Calavi. Il s'agit de Moïse Tossa. Bonsoir. Moïse, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Moïse.
Ben,
alors, quel est votre avis? Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, j'avais dit dans mon commentaire que le gouvernement, la lutte ici, c'est le fait de faire contact les opposants du président pour aller à l'exil. Eux, ceux qui sont autour de lui, aussi sont menés dans des malversations, ils ne veulent pas les interpeller, les opposants sont contraints d'aller en exil. C'est pourquoi moi j'avais dit que ici chez nous, je disais que
oui.
La lutte, on ne peut pas dire que c'est effectif, c'est sélectif ici. Chez moi, c'est sélectif.
Merci d'avoir partagé avec nous votre opinion. On va prendre un dernier auditeur, il s'agit de Yadama Mousso. Bonsoir.
Bonsoir, Ma.
Alors, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous partagez avec nous comme expérience ce soir?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir retrouvé la parole. Moi, sur ce sujet, ça m'inquiétait beaucoup, puisque le niveau que je vois, moi, la corruption, je dis particulièrement de la ville de Kananga. En République démocratique du Congo, je n'ai pas eu l'occasion de fréquenter toutes les villes pour voir ce qui se passe là. Mais je dis ce que j'ai vu ici à Kananga. Je dirais bien que la corruption était devenue comme un vent qui souffle sur la ville. Prenez l'exemple que partout où vous allez, vous allez trouver le vent, comme un vent qui souffle que tout le monde, du premier au dernier. Puisque ça a étonné déjà. Vous voyez un élève de 6 ans en première primaire, il vient à la maison, il vous dit non, mon papa maître m'a dit pour réussir dans cette classe, il faut donner autant d'argent. Dites-moi, un petit enfant comme ça, qui sait qu'on initie déjà à la corruption. Prenez maintenant pour les adultes, ou bien les vieux, quel niveau de la corruption pour faire n'importe quoi. Je dis, tout ce que vous voulez faire, si vous rendez dans un bureau.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. On a entendu votre message. Merci beaucoup, Yadama. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions sur notre site www.voaafrique. Au micro, c'était Ekia Badou. Et dans quelques instants, une nouvelle édition Le Monde aujourd'hui avec Claire Morin-Gibourg et Abdourahmane Dia. Merci à l'équipe technique qui était composée ce soir de Firmin Max Soyaweda, entre autres, et de Michel Joseph. Merci.
Thank you.